Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 20 novembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra à Moscou. Premier porte-hélicoptère iranien, le destroyer Roudaki. La Syrie dénonce la visite de Mike Pompeo des colonies israéliennes dans le Golan syrien occupé. La présidente de la Commission européenne appelle les pays de l'Union européenne à s'entendre sur une nouvelle politique migratoire. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, devait se rendre à Moscou pour discuter du Haut-Karabakh et des questions d'intérêt mutuel. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, se rendra à Moscou le 25 novembre pour rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov, pour discuter du Haut-Karabakh et des questions d'intérêt mutuel. Les deux hommes doivent également discuter des derniers développements dans la région du Golfe Persique, des questions liées au plan global d'action conjoint à l'accord sur le nucléaire iranien et également des questions relatives à la Syrie et à l'Afghanistan, toujours selon Maria Zakharova. Les questions économiques et des plans conjoints en matière d'énergie, de transport et d'expansion des relations culturelles sont alors du jour de la visite, a-t-elle ajouté. L'Iran assure sa défense partout, a martelé le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran n'est pas tenu à une zone géographique spécifique pour assurer la défense de ses intérêts vitaux, a déclaré le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Le général de division Hossein Salami, dont les propos ont été cités par CNews News, le site officiel du corps des gardiens de la révolution islamique, a fait cette déclaration après la publication d'informations du New York Times, selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait sondé récemment plusieurs hauts responsables américains sur la possibilité d'agir contre des installations nucléaires de l'Iran. Le Golfe Persique est une région stratégique pour l'économie mondiale et l'Iran y a joué le rôle privilégié et unique qui est le sien pour assurer la sécurité sécurité de cette étendue maritime, a déclaré le général Salami. Nous ne sommes pas limités à une zone géographique spécifique pour défendre notre sécurité et nos intérêts vitaux, a-t-il ajouté. Si certains veulent menacer les intérêts de cette grande nation et pays, ils ne seront assurément en sécurité nulle part sur la planète, a ajouté le commandant en chef du corps gardien de la révolution islamique. Nous ne sommes jamais une menace pour le moindre pays, mais notre stratégie de défense s'accompagne toujours de tactiques offensives, a-t-il martelé. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique enverra une flottille de navires militaires, y compris le nouveau navire de guerre de océanique Rudaki dans le nord de l'océan Indien. Avec l'arrivée du navire lourd Rudaki, la mission de force navale du corps des gardiens de la révolution islamique favorise une présence puissante dans les eaux lointaines. La cérémonie de ralliement du navire de guerre océanique Rudaki à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a eu lieu ce jeudi 19 novembre en présence du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Le navire de guerre océanique Shahid Rudaki est un navire lourd, polyvalent et à longue portée, capable de transporter tous les types d'aéronefs, du AVI et de missiles, de défense et de radar. S'adressant aux journalistes, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le contre-amiral Ali Reza Tanksiri, a déclaré que le Rudaki ferait partie d'une flottille qui partirait pour l'océan Indien. La flottille navale sera déployée au nord de l'océan Indien pour une mission qui comprend la surveillance des données marines, souterraines et aériennes, a-t-il souligné, et de poursuivre. La flottille opérera également des opérations tactiques de guerre asymétriques au cours de sa prochaine mission, soulignant que le nouveau navire de guerre aidera le CGRI à poursuivre ses stratégies de bataille asymétriques et de supériorité du renseignement dans les eaux lointaines. Le contre-amiral Tanksiri a indiqué que la flottille du CGRI, également chargée de lutter contre le trafic de drogue et également du sauvetage de navires de commerce de pêche et de combattre les menaces éventuelles des forces internationales. L'Iran rejette la résolution rédigée par le Canada sur la situation des droits de l'homme. L'Iran a condamné une résolution de l'ONU rédigée et proposée par le Canada comme une répétition des affirmations sans fondement sur la situation des droits de l'homme en République islamique, affirmant qu'elle prouvait plutôt l'hypocrisie du groupe notoire de pays qui l'ont voté. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné la résolution inacceptable, affirmant qu'elle n'avait aucun fondement juridique ni effet. Et il a déploré que le gouvernement canadien utilise les droits de l'homme et ses mécanismes internationaux pour atteindre ses objectifs et ses ambitions politiques. De telles actions sont non constructives et ne contribueront pas non seulement à promouvoir le statut des droits de l'homme et le respect des droits de l'homme au niveau international, mais ne feront que déclencher des mouvements pour former des clichés négatifs et à attacher des stigmates politiques aux pays indépendants, a ajouté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La Syrie a dénoncé la visite de Pompeo et des colonies israéliennes dans le Golan occupé. La Syrie a vivement condamné la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo des colonies israéliennes dans le Golan syrien occupé, la qualifiant de violation de sa souveraineté. Dans une déclaration à l'agence SANA, une source responsable du ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement de la République arabe syrienne condamne avec les termes les plus sévères la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo des colonies israéliennes dans le Golan syrien occupé dans un pas de provocation menée avant la fin du mandat de l'administration Trump, la considérant comme une violation de la souveraineté de la République arabe syrienne. La présidente de la Commission européenne appelle les pays de l'Union européenne à s'entendre sur une nouvelle politique migratoire. Les États membres de l'Union européenne doivent faire des compromis s'ils veulent parvenir à un accord sur la nouvelle politique migratoire du bloc, dans la mesure où il n'existe pas de solution qui satisfasse tout le monde, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Nous devons faire preuve d'unité sur cette question. Nous devons discuter, nous devons trouver des compromis, a-t-elle affirmé lors de la conférence interparlementaire de haut niveau sur les migrations et l'asile en Europe qui se tenait au Parlement européen à Bruxelles. En septembre, la Commission européenne a proposé un nouveau pacte sur les migrations et l'asile. Ce pacte est principalement axé sur une gestion solide et équitable des frontières extérieures avec, entre autres, des procédures plus efficaces et plus rapides pour les contrôles préalables à l'entrée dans l'Union européenne, les demandes d'asile et les éventuels recours. Les Burkinabés de l'étranger pourront voter pour la première fois dimanche. Les Burkinabés résidant à l'étranger pourront désormais participer à un scrutin et prendre ainsi part au double scrutin présidentiel et législatif de dimanche qui sera organisé en ce qui les concerne, dans 22 pays répartis sur 4 continents. Selon les données de la Commission électorale nationale indépendante, on recense 23 108 électeurs inscrits, constitués essentiellement d'hommes, 82% contre 18% de femmes. Sur ce total, on en compte 18 904 en Afrique, 2 811 en Europe et 1061 en Amérique, et 332 en Asie. Et pour terminer, notre journal d'information, après des années d'instabilité politique et de conflits, la Libye fait des progrès substantiels sur la voie de la paix, a déclaré la plus haute responsable de l'ONU dans le pays devant le Conseil de sécurité. Stephanie Williams, représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission des Nations Unies en Libye, a rappelé au Conseil le cessez-le-feu à l'échelle nationale convenu le mois dernier à Genève et le début d'un dialogue politique la semaine dernière en Tunisie. Après de nombreuses années d'oppression, de division, de chaos, de misère et de conflits, les Libyens se rassemblent pour le bien de la Libye, pour le bien de leurs enfants et petits-enfants, pour tracer une vision libyenne de la voie à suivre et qui offre la possibilité de préserver l'unité du pays et réaffirmer sa souveraineté, a-t-elle déclaré lors d'un exposé par visioconférence. Eh bien, chers amis, c'est tout à sa fin. Notre journal d'information, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La sécurité de l'Iran est non négociable, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le général de brigade Hossein Dehran, conseiller du guide suprême de la révolution islamique, a souligné que l'Iran n'entamera en aucun cas des négociations avec aucune partie au sujet de sa puissance militaire. Dans une interview accordée à la société de presse, le général Hossein Dehran, ancien ministre iranien de la Défense, a évoqué les prétentions de certains médias occidentaux sur la décision du président américain sortant Donald Trump d'entreprendre une action militaire contre l'Iran. Nous n'accueillons pas la crise. Nous ne sommes pas favorables à la guerre. Nous ne voulons pas déclencher une guerre. Mais nous ne cherchons pas non plus à négocier pour négocier, a-t-il souligné. Faisant référence à certains rapports sur les conditions que les États-Unis auraient l'intention de fixer pour les négociations avec l'Iran, le général Dehran a déclaré « La République islamique d'Iran n'entamera en aucune circonstance des négociations avec aucune partie au sujet de sa puissance militaire ». Les missiles sont à l'image de l'énorme potentiel de nos professions, notre jeunesse et nos centres industriels, a-t-il précisé. Au sujet du rapport de The New York Times concernant l'intention de Donald Trump de lancer une action militaire contre l'Iran dans les derniers jours de sa présidence, il a affirmé « un conflit limité et tactique pourrait se transformer en guerre à grande échelle ». Il est certain que les États-Unis, la région et le monde ne seront pas en mesure de résister à une crise d'une telle ampleur, a-t-il souligné. Concernant les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, des installations nucléaires iraniennes, le général Dehran a souligné que ces inspections devaient se poursuivre tant que les inspecteurs de l'AIEA ne sont pas des espions. Il a qualifié l'incident du 2 juillet sur le site nucléaire de Natanz de sabotage industriel. Ceux qui étaient en charge de l'installation de certains des appareils sur le site ont probablement fait des changements qui ont conduit à l'explosion, a-t-il de souligné encore. Il a indiqué concernant les accusations d'implication dans l'attentat de Beyrouth en 1983 porté contre sa personne que les États-Unis essaient d'attribuer tout ce qui se passe dans le monde à une personnalité en Iran. Ont-ils vraiment des preuves? Pour quelles raisons est-ce qu'ils cherchent à m'imputer cet attentat? S'est-il interrogé. Évoquant les récents accords entre certains pays du Golfe Persique et le régime sioniste, il a précisé que l'augmentation de cette présence en Asie occidentale pourrait conduire à une erreur stratégique. L'Iran exige l'expulsion de toutes les troupes américaines de la région en représailles au martyr du général Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui se passe ces jours-ci entre l'Iran et les États-Unis. Il y a eu cette information du New York Times comme quoi le président sortant américain Donald Trump avait sondé ses conseillers au sujet d'une éventuelle attaque contre le site nucléaire iranien de Natanz. Cela a suscité les vives réactions du côté de Téhéran, surtout du côté des commandants militaires de l'Iran. La sécurité iranienne n'est pas négociable, a souligné le général de brigade Hossein Dehran, conseiller du guide suprême de la révolution islamique, qui a en fait martelé qu'il n'est question pour Téhéran d'entamer en aucun cas des négociations avec aucune partie au sujet de sa puissance militaire. Un conflit limité et de tactique pourrait se transformer en une guerre à grande échelle. Il est certain que les États-Unis, la région et le monde ne seront pas en mesure de résister à une crise d'une telle ampleur, a souligné encore le général Dehran, ancien ministre iranien de la Défense et l'actuel conseiller du guide suprême de la révolution islamique. Et il y a eu une autre réaction du côté du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, qui dit que voilà, l'Iran n'est pas tenu à une zone géographique spécifique pour assurer la défense de ses intérêts vitaux. Si certains veulent menacer les intérêts de cette nation et pays, ils ne seront assurément en sécurité nulle part. Et sur terre, a souligné le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Et dans le même temps, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé de son premier porte-hélicoptère lors d'une importante cérémonie à Bandar Abbas. On va vous en parler avec deux juristes spécialistes des questions internationales, juristes français. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Elie Atem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à mon confrère André Chamy.
Vous l'avez en fait dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est votre confrère, Maître André Chamy, spécialiste des questions internationales, qui est avec nous pour cette émission, pas depuis Paris, Maître Atem, depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous tous et surtout, je salue l'ami Maître Atem.
Merci. Maître Chamy, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet tout à l'heure. Comment expliquez-vous ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les États-Unis, cette menace du côté de Washington et cette réaction du côté de Téhéran, s'il vous plaît?
Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle la vraie guerre et la guerre par l'entremise des médias. Et nous sommes actuellement en train de se jauger, puisque Trump a essayé, avec l'assassinat du général Soleimani, comment la République islamique d'Iran allait réagir. Il a eu le coup de Ayn al-Assad, et bien entendu, jusqu'à présent, l'Iran et ses alliés disent que les comptes ne sont toujours pas soldés, c'est-à-dire on ne peut pas considérer que même l'attaque de cette base réglerait les comptes entre les parties. Par conséquent, les Américains savent pertinemment qu'il y a quelque chose d'autre qui les attend. Raison pour laquelle les Américains se trouvent actuellement coincés dans une espèce d'impasse parce qu'ils ne savent pas comment régler, entre guillemets, la question iranienne. Puisqu'ils n'arrivent pas à négocier, puisque à chaque fois qu'ils négocient, ils se trouvent eux-mêmes dans la position de trahir leur propre accord. Et l'exemple le plus parfait, c'est l'accord sur le nucléaire. Non seulement Obama ne l'avait pas respecté, mais Trump est venu pour le déchirer. Et là, nous ne savons même pas comment Biden va reprendre, entre guillemets, en main cet accord. En même temps, ils ne peuvent pas, ils le savent, aller en guerre contre l'Iran parce que on sait quand ça peut commencer, ou on est susceptible de savoir quand ça peut commencer, mais personne ne sait ni comment, ni à quel moment ça peut se terminer, puisque une guerre ouverte, ça veut dire c'est quelque chose qui devient ou qui pourrait devenir interminable, et les Américains ne sont pas prêts, à mon sens, de rentrer dans ce type de conflit-là. Raison pour laquelle vous avez pu constater, comme moi, la décision qui a été prise sur le retrait des Américains en Irak, parce que c'est là qu'ils sont le plus fragiles, et à mon sens, c'est toute la région, et comme je l'ai annoncé dès l'assassinat du général Soleimani, c'est l'ensemble des forces américaines, même de leurs alliés, qui doivent déguerpir de la région. Et tant que cette présence est encore dans la région, il y aura une menace pour la région, mais en même temps une menace pour ces forces-là. C'est-à-dire leur survie passerait par leur retrait et ensuite il pourrait y avoir une possibilité de négociation, mais à ce moment-là d'égal à égal, Et à ce moment-là, nous verrons ce que les Américains sont prêts à mettre sur la table et arrêter les bêtises qu'ils ont commises maintenant depuis de longues années. C'est trop long. Mais à un moment donné, il faut que le peuple iranien respire, il faut que la République islamique d'Iran ne ressente plus de risques ou de dangers pour sa sécurité et pour la sécurité de ses citoyens. Et tant que les Américains n'auront pas compris cela, bien entendu, le conflit reste et les tensions demeureront.
Merci beaucoup pour votre commentaire, Maître Chami, lorsque vous étiez en train de... Et en fait, de suivre les explications, le commentaire de Maître Chami, vous avez découvert également l'image de ce nouveau navire iranien, ce porté d'hélicoptère, en fait, dénommé Shahid Rudaki, qui vient de s'ajouter à la flottille aux capacités navales de la de marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Hélicoptère très, très sophistiqué et de le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a dit que voilà, ce navire ferait partie d'une flotte qui partirait pour l'océan indien. Maître Hatem, vous venez d'écouter les explications de votre confrère André Chami. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Ben, écoutez, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'il faut partir d'un point de vue simple, c'est que aux États-Unis, ce n'est pas le président qui contrôle la politique étrangère et qui décide de la politique étrangère. Il y a toute une équipe qui est téléguidée par des lobbies, c'est-à-dire par des groupes de pression qui ont un projet, qui ont des projets politiques qui veulent exécuter par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les rouages officiels, c'est-à-dire le chef de l'État, le président donc de la République. Vous savez, il y a le Pentagone, il y a également la CIA américaine, il y a les anciens généraux, il y a l'administration, en fait, qui se trouve également à la Maison-Blanche, et c'est l'ensemble, en fait, qui décide. Parmi ces groupes de pression, il y a bien entendu les néoconservateurs, mais il y a également le lobby sioniste concernant le Moyen-Orient qui est très efficace et qui agit en fait et téléguide plutôt la politique américaine en ce qui concerne le Proche-Orient. Alors, il faut savoir, la question qui se pose, alors cette idée, c'est que est-ce que c'est véritablement, c'est une idée du président Trump d'aller faire une nouvelle aventure? S'agit-il d'une simple déclaration ou d'une volonté réelle qu'il a voulu faire pour rendre les choses plus difficiles à l'administration donc de son successeur, de M. Biden, en lui laissant une ardoise, en sachant très bien que cela, comme l'a très bien indiqué mon confrère André Chami, un déclenchement d'hostilité, une guerre contre l'Iran dans l'esprit de Donald Trump, est-ce que cela va-t-il entraîner à une guerre régionale? Est-ce que cela va-t-il également entraîner à des attaques à l'encontre des intérêts américains? Et de ce fait-là, son successeur, c'est-à-dire le nouveau président Joe Biden, si il n'y a pas eu de contestation relativement donc à ces élections qui sont d'ailleurs iniques, j'ouvre une parenthèse, dans ce pays où il faut vraiment, je pense, intervenir pour mettre un terme à cette situation inique dans l'histoire du monde. Alors la question qui se pose, c'est que fera dans ce cas-là Joe Biden s'il est confirmé président de la République et puis avec un conflit donc dans cette région alors qu'il n'était pas préparé préalablement. Moi je pense que effectivement il y a eu une certaine pression pour ou un jeu politique qui est derrière, c'est pour en fait mettre surtout de l'huile sur le feu, et nous sommes habitués à la politique de l'administration, de l'entourage du président Trump, c'est beaucoup de fumée sans feu, en sachant que quand même que l'Iran a des forces de de sécurité, de défense qui sont assez importantes, et nous avons vu cette dernière démonstration qui est plus une démonstration pour démontrer une certaine dissuasion pour éviter des attaques qui portent atteinte à la souveraineté nationale iranienne. Deuxièmement, c'est que on voit que de plus en plus, c'est que malheureusement, les États-Unis, qui sont quand même l'une des plus grandes puissances mondiales, sont en train de violer le droit international. Et je me pose la question de quel droit les États-Unis peuvent intervenir dans les affaires internes des pays du Proche et du Moyen-Orient, dans les affaires internes donc, de l'Iran. Et pourquoi pas l'Iran ne pas intervenir dans les affaires internes des États-Unis compte tenu de cette mascarade actuelle et puis pour soutenir l'un ou l'autre des camps qui sont en train de s'entre-déchirer aux États-Unis. Donc c'est un peu cynique, c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité donc, de la situation. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte, je dirais, de violation flagrante du droit international public par les États-Unis, avec des décisions et des prises de position qui sont à l'encontre des principes de la Charte des Nations Unies, qui sont la préservation de la paix et de la sécurité mondiale.
Maître Deschamis, dans l'état actuel des choses et face à ces menaces du côté des autorités américaine, très particulièrement de la part du président sortant. Les commandants militaires iraniens, surtout, disent que voilà, notre stratégie, c'est une stratégie de défense, une stratégie défensive. Mais attention, si il y a une agression contre l'Iran, une attaque contre l'Iran, nous passerons tout de suite à une offensive, si vous voulez, une action offensive, à une stratégie offensive. Comment t'expliquez-vous cette, si vous voulez, prise de position des commandants militaires iraniens, André Chamich?
Ce n'est pas une simple position, c'est une doctrine qui a été adoptée par l'ensemble de l'axe de la résistance, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes en conflit ouvert avec vos ennemis, il n'y a pas d'autre choix que de créer ce qu'on appelle la terreur réciproque, c'est-à-dire vous tentez de me terroriser, je serai en mesure de vous terroriser aussi. Nous avons constaté cela au Liban entre le Hezbollah et l'entité sioniste. Aujourd'hui, pourquoi, et c'est une question qui, je dirais, que tous les Libanais se posent, pourquoi l'entité sioniste n'ose plus depuis 2006 s'en prendre au Liban et mener des attaques au Liban comme elle l'a fait depuis pratiquement la naissance de cette entité-là, tout simplement parce qu'il y a cette dissuasion qui a été créée par la force, par le Hezbollah, et vous avez maintenant sur une plus grande échelle la dissuasion qui est créée par la République islamique d'Iran à l'égard des Américains et de leurs alliés. C'est-à-dire, si jamais les Américains devaient s'aventurer dans une aventure sur le territoire iranien ou même sur les intérêts iraniens, et on a eu l'exemple du général Soleimani, bien entendu, la riposte sera immédiate et sera douloureuse. Tout le monde se souvient des images sur la base d'Al Assad. Vous avez donc là, non seulement une démonstration, mais également une réponse qui a été programmée, décidée et immédiatement réalisée par les autorités iraniennes au plus haut niveau, je dirais, à tous les niveaux du pouvoir. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de tergiversation sur cette question-là. À partir du moment où il y a la patrie qui a été attaquée, à travers l'un de ces symboles-là, l'Iran réagit comme un seul homme face à l'ennemi. L'ennemi, évidemment, c'était les États-Unis, et ça l'est encore. Il n'appartient qu'aux États-Unis de revoir sa politique dans la région. Et j'ai toujours expliqué que tant que les Américains n'ont pas traité les Iraniens et la République islamique d'Iran comme un vis-à-vis et comme un véritable interlocuteur avec lequel ils peuvent discuter et transiger et mettre tout sur la table. Et cela devait se faire après les accords sur le nucléaire iranien, puisque c'était, entre guillemets, la position qui était affichée et par Kerry et par M. Zarif, et ceux qui ont trahi cet accord-là, c'était les Américains, et aujourd'hui, nous sommes revenus à la case départ. Par conséquent, si les Américains ne changent pas d'avis, c'est la dissuasion, et ça sera attaque contre attaque, et avec la possibilité que ce conflit se généralise et prenne une ampleur inenvisageable au départ par les Américains, mais à ce moment-là, maintenant ils le savent à mon avis, et il y a par exemple l'entité sioniste qui risquerait tout simplement de disparaître en tant qu'entité sioniste, c'est-à-dire il n'y aura plus d'intérêt américain dans cette région-là parce que le conflit va être généralisé et immédiatement l'ensemble de l'axe de la résistance se mettrait en branle pour faire face à cette situation-là. Et c'est à mon sens là que se trouve la douleur, si j'ose dire, que pourraient ressentir les Américains si jamais ça prend cette ampleur-là. Et bien entendu, les conséquences, eux, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à les supporter.
Merci beaucoup, Kella. Vous venez de découvrir encore l'image de ce porte-hélicoptère iranien dénommé Shahid Rudaki. Shahid Rudaki, qui est un navire lourd, polyvalent et à longue portée, capable de transporter tous les types d'aéronefs et de missiles, de systèmes de défense et de radars. Maître Atem, loin de se laisser intimider par ces menaces du côté de Washington, Téhéran, plus précisément le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, annonce l'intention de cette force d'envoyer une flotte navale dans l'océan Indien, dont bien sûr de nouveaux navires Shahid Rudaki. Et comme l'a dit Maître Chami, l'Iran dit que voilà, si nos intérêts sont menacés, si notre nation est menacée, nous allons pas nous limiter à une zone géographique et spécifique. Votre analyse sur ce sujet, s'il vous plaît.
C'est une initiative dissuasive de la part de l'Iran. Autrement dit, il faut rappeler que ce n'est pas l'Iran qui agresse les autres pays, ce n'est pas l'Iran qui agresse les États-Unis, mais ce sont bien les États-Unis qui agressent l'Iran, parce que nous avons eu l'exemple de l'assassinat quand même du général Soleimani, qui a été revendiqué par les États-Unis et qui a été condamné par la plupart des pays de la planète. Parce que là, c'est un acte qui, au sens de la définition même de l'Assemblée générale des Nations unies, constitue une véritable agression. Et nous avons vu que l'Iran n'a pas riposté d'une manière violente à cette attaque. Mais pour l'avenir, et compte tenu de ces menaces, et compte tenu de ce passé agressif et violent de la part des États-Unis, l'Iran a besoin de démontrer que arrêtez vos provocations. Et s'il y a provocation, nous avons les moyens de riposter. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas riposté par le passé que nous n'allons pas pouvoir le faire dans l'avenir. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'Iran qui, je dirais, empiète sur l'espace maritime international, mais comme l'a très bien souligné, ou l'ont souligné les autorités iraniennes, c'est que en cas d'une surenchère agressive, médiatique ou réelle sur le terrain, l'Iran sera en mesure et a l'obligation de protéger ses frontières, parce que malheureusement, les Nations Unies sont incapables de le faire. Alors, par analogie, ce que je ne comprends pas, c'est que les téléspectateurs doivent prendre un autre exemple d'un autre pays qui agresse d'une manière réelle, d'autres pays, un gouvernement, un régime qui est en train de violer le droit international et qui est en train également d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il le voit. Il menace la paix et la sécurité internationale. Je parle du régime turc de M. Erdogan. Et pourtant, les États-Unis ne prennent aucune mesure similaire ou bien même moindre par rapport aux mesures qu'il est en train de prendre à l'encontre de l'Iran. Avant de s'occuper de l'Iran, avant de penser à réduire les capacités de défense de l'Iran, il faut régler le problème de cette agression, de cette agressivité de la part du régime de M. Erdogan en Turquie, et qui viole le droit international, qui empiète sur l'espace maritime de l'est de la Méditerranée, qui occupe aujourd'hui toujours 40% du territoire chypriote en violation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Assemblée générale, d'ailleurs, des Nations Unies. Eh bien, voilà ce qui se passe actuellement. Et pourquoi la Turquie continue à le faire? Parce que la Turquie est soutenue, d'ailleurs, par les États-Unis étant l'un des membres les plus importants de l'OTAN. Donc voilà cette conception en fait américaine qui est totalement en fait inadmissible parce qu'elle est en violation de tous les principes du droit international public. Et voilà en la riposte, je dirais, de la part donc de l'Iran pour se prémunir, pour se défendre contre cette agressivité et contre ces violations du droit international pour lesquelles, malheureusement, les Nations Unies sont incapables de mettre un terme parce qu'ils sont sous le joug des Nations Unies, des États-Unis, et cela depuis la fin du mandat de feu Boutros-Boutros-Ghali.
Merci beaucoup. Maître Chami, nous avons presque 2 minutes devant. Et nous, je vous remercie de conclure notre débat d'aujourd'hui, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, effectivement, nous sommes sur une sorte de croisée de chemin avec le changement de président aux États-Unis. Peut-être que, moi, je ne désespère pas d'imaginer, et le rêve n'est pas interdit, qu'à un moment donné, les Américains finissent par comprendre que leur politique impérialiste ne servirait à rien et peut-être qu'il faudrait qu'ils se tournent vers leur propre pays, c'est-à-dire s'occuper de leurs problèmes internes, le problème de la misère, le problème de la santé, le problème de leur régime social, surtout la prise en charge de millions d'Américains. Et pour cela, il faudrait peut-être qu'ils se recentrent vers l'intérieur au lieu de continuer de se projeter vers l'extérieur en commettant des agressions et bien entendu en se considérant comme les cow-boys du monde en quelque sorte. Et peut-être que Biden a tiré profit de son expérience à l'époque d'Obama, puis le soft power a fait ses preuves. Maintenant, au lieu de passer par le soft power, peut-être il faudrait oublier totalement l'esprit de la force et l'esprit de la domination et peut-être partir vers un nouveau partenariat, c'est-à-dire le partenariat avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, au lieu de continuer d'être en guerre avec le monde entier.
Maître André Chami, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Eliatem, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Les euromissiles nucléaires reviennent. ans, il y a plus de 5 ans, précisément le 9 juin 2015, nous avions tiré sur Il Manifesto, donc les missiles reviennent-ils à Comiso en Italie? Cette hypothèse fut ignorée par l'ensemble de l'arc politique et liquidée par quelques soi-disant experts comme alarmistes. L'alarme, malheureusement, était fondée. Il y a quelques jours, le 6 novembre, la société Lockheed Martin, donc celle-là même qui produit les F-35, a signé un premier contrat de 340 millions de dollars avec l'US Army pour la production de missiles à portée intermédiaire, y compris à tête nucléaire projetée pour être installée en Europe. Les missiles de cette catégorie, donc avec base au sol, et une portée allant entre 500 et 5500 km, avaient été interdits par le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé en 1987 par les présidents russes, donc Gorbatchev, et américains Reagan. Il avait éliminé les missiles balistiques nucléaires Pershing 2 déployés par les États-Unis en Allemagne de l'Ouest et les missiles nucléaires de croisière Tomahawk déployés par les États-Unis en Italie, donc à Comiso, en Grande-Bretagne, en Allemagne de l'Ouest, en Belgique et aux Pays-Bas, et en même temps les missiles balistiques SS-20 déployés par l'Union soviétique sur son territoire. Faisons un petit retour en arrière. En 2014, l'administration Obama accusait déjà la Russie, sans aucune preuve, d'avoir expérimenté un missile de croisière de type sigle 9M729 de la catégorie interdite par le traité. Et en 2015, il a donc annoncé, face donc à la violation du traité FNI par la Russie, les États-Unis sont en train de considérer le déploiement en Europe de missiles avec base au sol. Le témoin est ensuite passé à l'administration Trump qui, en 2019, a décidé le retrait des États-Unis du traité FNI en accusant la Russie de l'avoir délibérément violé. Après quelques essais de missiles, Lockheed Martin a été chargé de réaliser un missile de croisière dérivé du Tomahawk et un balistique dérivé du SM-6 de Raytheon. Selon le contrat, les deux missiles seront opérationnels en 2023, donc près d'ici 2 ans à être installés en Europe. On gardera bien sûr à l'esprit le facteur géographique. Alors qu'un missile balistique nucléaire américain à portée intermédiaire lancé depuis l'Europe pourrait frapper Moscou en quelques minutes. Un missile analogue lancé depuis Moscou pourrait frapper les capitales européennes, mais bien évidemment pas Washington. Si l'on inverse le scénario, donc c'est comme si on dirait que la Russie déployait des missiles nucléaires à portée intermédiaire au Mexique. On gardera en outre à l'esprit que le SM-6, donc précise Raytheon, concentre la fonction de 3 missiles en un. Anti-aérien, anti-missile et d'attaque bien sûr. Le missile nucléaire, dérivé donc du SM-6, pourra être utilisé depuis les navires et installations terrestres du bouclier USA en Europe, dont les tubes de lancement, précise Lockheed Martin, peuvent lancer des missiles pour toutes les missions. Dans une déclaration du 26 octobre 2020, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé la validité du traité FNI, qualifiant de grave erreur le retrait états-unien et l'engagement de la Russie à ne pas déployer des missiles analogues tant que les États-Unis ne déploieront pas les leurs au bord de son territoire. Il propose ensuite aux pays de l'OTAN un moratoire réciproque et des mesures réciproques de vérification, c'est-à-dire des inspections dans les installations réciproques de missiles. La proposition russe a été ignorée par l'OTAN. Son secrétaire général, donc Jens Stoltenberg, a réaffirmé le 10 novembre que dans un monde aussi incertain, les armes nucléaires continuent à jouer un rôle vital dans la préservation de la paix. Évidemment, aucune voix des gouvernements et parlements européens ne s'est élevée. Bien que l'Europe risque tout de même de se trouver en première ligne dans une confrontation nucléaire analogue ou plus dangereuse que celle de la guerre froide. Mais il ne s'agit pas là de la menace du Covid, donc on n'en parle pas. L'Union européenne, dont 21 des 27 membres font partie de l'OTAN, s'est déjà fait entendre quand, en 2018, elle a rejeté aux Nations Unies la résolution présentée par la Russie sur la préservation et le respect du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, donnant par la même occasion son feu vert à l'installation de nouveaux missiles nucléaires américains en Europe. Mais est-ce que quelque chose changera lorsque le démocrate, donc Joe Biden, se sera installé à la Maison-Blanche? Ou bien après que le démocrate Obama ait ouvert la nouvelle confrontation nucléaire avec la Russie et le républicain Trump l'a aggravée en déchirant le traité FNI, le démocrate Biden, donc l'ancien vice-président d'Obama, signera-t-il l'installation des nouveaux missiles nucléaires américains en Europe?
Thank you.